Et ce psaume de Jonas a résonné en moi dans ces temps. C'est toujours difficile, je vais pas tellement parler de l'actualité parce qu'elle est suffisamment difficile et angoissante. Et j'aimerais justement que ce matin, ce temps de culte, soit un temps qui soit un temps de respiration. Même si nous ne pouvons pas tant sortir et respirer dehors, eh bien, le culte peut aussi être un temps de respiration. Donc prenez ces textes comme des cadeaux, comme des dons que Dieu nous offre. Et voici donc une prière, celle de Jonas, qui est, comme la plupart de vous le savent, dans le ventre d'un poisson tout au fond de la mer au moment où il prie, eh bien, dans un lieu qui est vraiment le confinement du confinement, au fond du fond même, on voit les deux images, eh bien, voici cette prière de Jonas. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel son Dieu et il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé, loin de tes yeux. Mais je contemplerai encore ton saint peuple, ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloigne Dieu la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ce petit livre de Jonas, si je l'ai choisi aussi aujourd'hui, c'est parce que, d'abord, il est plein, vous allez l'entendre, de messages que nous pouvons, qui nous rejoignent aujourd'hui encore. Il y en aurait certainement d'autres que ceux que je vais développer. Mais c'est surtout parce que ce petit livre ne manque pas d'humour. Et je pense que dans notre monde, dans cette période difficile que nous traversons, l'humour aussi est une arme qui nous permet d'avancer. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons aucune compassion avec les personnes qui sont en difficulté, qui sont dans le deuil, qui sont dans la maladie, ou même qui sont simplement dans l'angoisse, parce que c'est vrai que la situation peut être angoissante. Mais, en effet, l'humour nous permet de prendre une certaine distance. Humour parce que ce livre est plein de renversements. Humour parce que ce petit bonhomme, ce petit Jonas, ne comprend pas grand-chose. Il fait tout le contraire de ce qu'on attend de lui. Humour parce que, nous l'entendrons tout à l'heure, cette espèce de quick conversion de tous les ninivites, de ceux que Jonas veut appeler justement à la conversion, à quelque chose d'assez étonnant et même réjouissant, mais quand même, on doit dire que l'auteur de ce livre, eh bien, doit avoir une certaine dose d'humour pour nous faire croire ça. C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, vous connaissez tous plus ou moins l'histoire de Jonas. Jonas, ce prophète dont on nous dit qu'il est fils d'Amittai. Alors, Amittai, ça veut dire Dieu de vérité ou Dieu de... En tout cas, ça nous permet d'essayer de comprendre ce qui va arriver à Jonas. Jonas, en hébreu, ça veut dire colombe. Alors, on pense tous que ce mot de colombe est quelque chose de très positif dans la Bible. C'est vrai, c'est la colombe de Noé qui lâche et qui présage de la fin du déluge et de la vie à nouveau possible sur Terre. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons espérer qu'il y aura de nombreuses colombes qui vont nous permettre de revivre normalement et non pas confinés, non pas dans une arche, mais dans nos appartements ou dans nos maisons. Jonas, c'est aussi la colombe de l'Esprit-Saint qui descend sur le Christ au moment du baptême dans le Nouveau Testament. Mais dans le livre d'Osée, la colombe nous est présentée comme un animal assez stupide. Alors finalement, et d'ailleurs Jonas là-dedans, il est un peu stupide. Et j'aime cette ambivalence que l'on retrouve tout au long de la Bible à travers de nombreux symboles. Donc Jonas, eh bien, il est capable du meilleur comme du pire. Eh bien finalement, Jonas, il est très humain. Donc voilà. La colombe, c'est aussi ce qui relie le ciel et la terre, et nous l'avons vu, vous le savez, puisque ça se trouve dans le livre des prophètes, Jonas est un prophète, c'est-à-dire qu'il est la bouche de Dieu sur terre. Bon, il n'a pas très envie. Il n'a pas très envie, c'est ce qui se passe au chapitre 1. Nombre d'entre vous connaissent cette histoire, c'est pour ça que je ne l'ai pas relu. Mais en réalité, relisez-la, parce qu'il y a toujours des détails dans le texte qu'il n'y a pas quand on raconte l'histoire. Jonas, donc, Dieu l'appelle, lui demande d'aller à Ninive. Alors Ninive, c'est une ville, c'est le symbole de la ville de débauche, de dépravation, aussi bien sur le plan de la justice sociale, sur le plan des mœurs, sur le plan du culte. Voilà. Cumule tout, la ville de Ninive. Il envoie donc, et puis Ninive, c'est aussi une ville assyrienne, donc les ennemis d'Israël à une certaine époque. Donc c'est vraiment la ville de l'horreur. Donc Dieu envoie Jonas prêcher à Ninive pratiquement la fin du monde. Pensez bien que Jonas, il a la trouille et il va de l'autre côté. Et finalement, on lui demande d'aller à l'est, il va à l'ouest, il descend une première fois vers Jaffa, il descend encore une fois sur le bateau, et dans le bateau, il descend à fond de cale, et on va voir qu'il descend ensuite au fond du ventre de la baleine, et ensuite au fond de la mer. Donc c'est une descente pratiquement aux enfers, puisque c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le psaume que je vous ai lu, lorsqu'il dit du séjour des morts, le shéol en hébreu, ce qui signifie un peu l'enfer. Donc on voit la descente de Jonas. Oh, c'est pas Dieu qui le fait descendre. Il prend ses responsabilités tout seul, il descend. Donc Jonas refuse d'aller où Dieu l'envoie. Il essaye de se cacher, mais difficile de se cacher de Dieu en réalité. On aimerait bien des fois, mais il nous rattrape. Ça nous dit aussi que sa présence à nos côtés est toujours réelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc Jonas refuse, il monte sur un bateau, et évidemment, ça se passe mal sur le bateau. Il y a une grande tempête, et les marins se demandent ce qu'ils font. Ces marins qui n'ont rien d'hébreu, et qui pourtant vont comprendre. Jonas, c'est bien. Et ils vont comprendre qu'il y a quelque chose avec cet homme qu'ils ont chargé sur leur bateau, et Jonas va reconnaître que finalement, s'il y a une tempête, c'est Dieu qui est en colère contre lui. Et là, ce petit homme qui était peureux, qui n'avait rien assumé jusque-là, va assumer quelque chose et dit « Écoutez, jetez-moi par-dessus bord et tout ira bien pour vous. » Ah, finalement, au bout du bout, le voilà courageux, donc il ne faut pas trop lui taper dessus, Jonas. Et donc les marins, non seulement le jettent par-dessus bord, mais comprennent que le Dieu de Jonas est le vrai Dieu. Et là, ils se mettent à faire un sacrifice pour Dieu, à la fois pour se faire pardonner, parce qu'ils comprennent que quand même avoir jeté un gars comme ça à la mer, c'était pas bien, et en même temps pour reconnaître la grandeur de Dieu. Ça manque pas d'humour, parce que normalement, ils devraient rien comprendre, ces étrangers. Mais voilà, surtout dans ces livres des prophètes qui s'adressent avant tout aux Hébreux, voilà une dimension d'universalité qui nous rejoint. Finalement, le Dieu d'Israël, ce Dieu que nous nommons aujourd'hui éternel ou Seigneur, eh bien ce Dieu est le Dieu de tous. Donc, voilà Jonas dans le ventre de la baleine. En réalité, cette descente inexorable, eh bien, aurait pu se terminer là. D'ailleurs, ce livre-là aurait pu se terminer à de nombreux endroits. Ça aurait déjà été une belle morale, finalement. Eh bien, regardez ce qu'a fait Jonas. Il n'a pas écouté Dieu, il est puni. Ça, c'est peut-être comme Jonas entend le message de Dieu. Mais ce qui nous est dit dans le livre de Jonas, c'est tout à fait autre chose. Et voilà que Jonas, dans le ventre de la baleine, prend conscience, enfin du poisson d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un poisson, mais non pas d'une baleine, mais bon, comme c'est quelque chose de très gros, on a dit souvent que c'était la baleine. Et voici que Jonas, dans le ventre de ce poisson, va comprendre la présence de Dieu. Et là, au fond du fond, alors qu'il aurait pu craquer complètement, il va continuer à dialoguer avec Dieu. Lui qui avait essayé de partir à l'autre bout du monde et de lui échapper, eh bien voilà qu'il comprend qu'il doit rester en lien avec Dieu. Et ce cri à la fois, ce psaume à la fois où il reconnaît tous ses torts et où il demande pardon à Dieu, cette attitude qu'il a eue d'abord de responsabilité en reconnaissant que c'était de sa faute s'il y avait la tempête dans un premier temps, puis cette attitude qu'il a au fond du ventre des entrailles, on nous dit. D'ailleurs, c'est intéressant, tout à l'heure je disais baleine, poisson. En réalité, quand on parle des entrailles, le texte hébreu change et ne nous dit plus les entrailles du poisson, mais les entrailles de la poissonne. Comme s'il était dans ce lieu de confinement, mais un confinement qui en même temps est comme une matrice qui le protège. Donc, il y a de cela. Et j'aime justement aussi l'ambivalence à la fois entre un confinement qui pourrait être mortifère et un confinement protecteur. Un confinement qui fait que Jonas peut faire ce travail d'introspection et se présenter devant Dieu tel qu'il est. En réalité, il est peu de choses comme nous, mais il avoue son insécurité totale, mais il dit même avant qu'il soit rejeté sur la terre que Dieu peut le sauver. Il a cette foi profonde en Dieu et il sait qu'en priant, il peut continuer à être en lien avec lui. Ainsi, même si Dieu parfois nous semble lointain, même si nous pensons être au fond du fond, comme Jonas, parce qu'on ne peut pas dire que cela ne soit pas symboliquement fort, cette descente encore au fond et encore au fond, il est en pleine dépression, Jonas. Et bien même en pleine dépression, il arrive avec quelques phrases, un filet, eh bien, il arrive à reprendre contact avec Dieu. Il est simple, il est dans la reconnaissance, il reconnaît les limites de ses failles. Et nous, aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à ça. Et je dirais même que c'est la première attitude du chrétien, c'est d'être en fait reconnaissant, et reconnaissant envers Dieu, mais reconnaissant aussi envers notre finitude, envers nos failles. Il est au fond, coupé de tout, coupé des autres, coupé de Dieu, mais il arrive à nouveau à se faire entendre de Dieu. Alors, ce petit psaume, en réalité, avant de passer à la suite, je vous invite d'ailleurs, faites l'expérience chez vous, vous lisez le chapitre 1, puis le 3, puis le 4. Et finalement, on n'avait pas besoin de ce psaume. Eh bien, j'aime ce psaume parce que justement, il semble inutile et pourtant il est essentiel. Je pense que sans ce psaume, le livre n'aurait aucun intérêt. D'ailleurs, ce serait un petit conte, un joli conte comme ça, mais ce livre n'aurait aucun intérêt. Ainsi, c'est parfois ce qui nous semble le plus dérisoire qui est essentiel. La prière, le psaume, aujourd'hui, c'est essentiel pour nous aussi, dans notre monde. Dans notre monde où finalement nous sommes plutôt habitués, eh bien, à être compétitifs, à être productifs. La prière, eh bien, elle semble ne rien avoir de productif et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus productif. Mais l'histoire continue. Et nous continuons donc notre lecture. Jonas, qui vient de sortir du ventre de la poissonne. Donc, Jonas, voici ce qui se passe. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris vers elle la proclamation que je te dis. Alors Jonas se lève, il va à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il crie ces mots, encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes, que les bêtes, le gros, le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes, que les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas ? Qui sait si Dieu n'aura pas de regret et s'il ne reviendra pas sur son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. C'est vrai que tout semble recommencer, comme au tout début. Mais on dit que le diable souvent se trouve dans les détails, mais peut-être que Dieu aussi de temps en temps se trouve dans les détails. Parce qu'au début, Dieu dit à Jonas, « Debout, pars vers Ninive, la grande ville, et crie contre Ninive. » Tandis que là, Dieu lui dit « Crie vers Ninive. » Donc on voit que l'ordre n'est pas tout à fait pareil et que cela, eh bien, présage en tout cas que cela ne va peut-être pas se passer comme on le croit, en tout cas comme Jonas le croit et comme nous pouvons le croire aussi. Rien en effet ne recommence comme avant. Et après cette expérience du ventre du poisson, Jonas est certainement changé. Il a cette foi ferme en Dieu. Peut-être qu'il ne sait pas encore qui est vraiment Dieu. Il va le découvrir, justement. Mais en tout cas, même Dieu ne donne pas le même ordre après. Et ça, c'est quelque chose que nous avons à entendre, à écouter, à comprendre aujourd'hui. C'est qu'après les épreuves, rien ne recommence comme avant. Après les joies, non plus rien ne recommence comme avant. Et puis, il faudrait arrêter de se plaindre de ce passé qui est éternellement merveilleux. Eh bien non, le passé n'est pas mieux que le présent. Alors certes, en ce moment, nous vivons des moments difficiles. Bah, regardez le passé, tiens, pour une fois. Il y a des passés beaucoup plus douloureux. Alors oui, nous pouvons essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut être sûr d'une chose, rien ne recommencera comme avant. Rien ne recommencera comme avant, mais pour que ça ne soit pas pire, parce que ça c'est aussi une possibilité, nous avons aussi à continuer à combattre, à prier, à essayer d'aller vers les autres. Et ça, c'est à peu près ce qui va nous convertir en réalité, en permanence. La conversion, c'est-à-dire le retournement, c'est ce que vont faire les Ninivites, c'est ce à quoi les appelle ce roi. En effet, ce retournement fait que les choses ne continuent pas comme avant. Et c'est là aussi que nous pouvons avancer. Donc, l'ordre est un peu différent. Et puis, je trouve que ce chapitre-là, alors vraiment, on croit rêver. Je veux dire, quel prédicateur, quel pasteur n'aimerait pas parler 5 mots en hébreu. Et toute l'assemblée est convertie. Et toute l'assemblée va convertir toute la ville. Puis une ville largement plus grande que Paris, hein, 3 jours de marche. Moi, je traverse Paris en 2 heures. Je ne marche pas très vite. Donc, vous voyez, cette mégapole, eh bien, d'un seul coup, tout le monde se convertit. Puis imaginez quand même, ça ne manque pas d'un certain humour, les hommes, les bêtes, avec des sacs et des cendres, quand même. Bon, mais cela nous dit aussi ce à quoi ils comprennent tout de suite et ils agissent tout de suite. Alors, peut-être que c'est un peu difficile, pas tout à fait dans notre nature, ce jeûne collectif, cette poussière et cette manière d'être en deuil collectivement. Parce que c'est cela aussi, les sacs et la cendre. C'est le signe du deuil dans l'Ancien Testament. Donc, en fait, ils sont en deuil. Et du coup, ils font ce travail où ils regardent ce qui n'allait pas chez eux. Avant de changer d'attitude, eh bien, ils réfléchissent. Il faut, avant de changer nos attitudes, en effet, regardons posons-nous un certain temps. Bon, on peut continuer à manger, hein, mais posons-nous et regardons ce qu'il faut changer. Et d'abord, je veux dire, ce qu'il faut changer en nous. Parce que la conversion, elle est avant tout spirituelle, avant d'être une quick conversion de toute la société. Si chacun d'entre nous fait une conversion spirituelle, peut-être que le monde va changer. Je disais tout à l'heure que le psaume paraissait pas important. Ben, la conversion spirituelle, elle est première, elle est essentielle, chacun, chacune. Alors, il y a de cela, il s'agit d'un retournement complet qui nécessite certains sacrifices, même si je n'aime pas trop ce mot. On va passer d'un système à l'autre, d'un changement personnel à un changement collectif. Et on s'interroge, qui peut changer ? Parce que là, ce n'est pas ceux qu'on croit qui changent. On pensait que Jonas avait changé une première fois, mais il y a un chapitre 4 à la fin qui nous dit que ce n'est pas si simple que ça. Qui peut changer ? Eh bien, n'importe qui peut changer. Personne n'est exclu de la conversion. Là, les Ninivites, c'était ce qu'il y avait de pire, de moins bien, de tout ce qu'on pouvait imaginer qu'allait terminer dans le Sheol, en enfer. Eh bien non, ils arrivent, ils comprennent. Ils comprennent en 5 mots. Eh bien oui, tout est possible pour chacun, pour chacune d'entre nous. On n'est jamais ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop petit, ni trop grand, ni trop faible, ni trop fort, ni trop je ne sais quoi, ni pas assez je ne sais quoi non plus pour être capable de conversion. Tous, nous sommes capables de conversion. Et là, il y a cette belle universalité qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Ce texte-là, il est écrit par des Hébreux, mais il s'adresse à toutes et à tous. Et surtout, ce texte-là nous dévoile un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Et ce qui, moi, m'éclate, je vais le dire comme ça, c'est qu'en fait, eh bien, ça nous dévoile un Dieu qui se convertit. Parce que si vous lisez bien le texte, les Ninivites appellent à la conversion, mais 2 fois on nous dit que Dieu se convertit, que Dieu change. Et oui, Dieu change, parce qu'il demande pardon et Dieu ne va pas appliquer sa sentence. Alors, ça montre surtout que l'image de Dieu qu'avait Jonas, dès le début, il a peur, il a la trouille, il veut se cacher de Dieu, parce qu'il sait que s'il s'en va trop loin, il va être puni. Eh bien, il aurait dû déjà faire cette expérience. C'est qu'en effet, il lui est arrivé des bricoles, mais ces bricoles, elles sont arrivées de sa faute. Mais Dieu, justement, le rattrape et le remet debout, en route. Et en effet, on a tendance à dire c'est de la faute de Dieu. Mais non, ce qui nous arrive de mal souvent, c'est de notre propre faute ou de la faute des humains. Alors arrêtons de dire que le mal vient de Dieu et que le bien viendrait de notre comportement ou même, pourquoi pas, de Dieu. Non, le mal, dans l'histoire de Jonas, il vient de Jonas. Le mal des Ninivites, il venait d'eux-mêmes. Mais lorsqu'ils sont capables, eh bien, soit Jonas dans la prière et eux dans leur comportement, parce qu'on ne nous dit pas d'ailleurs ce qu'ils font. Est-ce qu'ils se mettent d'un seul coup à prier Dieu, à rendre culte à ce nouveau Dieu, à brûler leurs idoles ? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils changent et que ce comportement, eh bien, va émouvoir Dieu, le fait qu'ils se reconnaissent pécheurs. Et Dieu, nous dit-on, a compassion d'eux. Alors, ce serait déjà une très belle histoire, cette découverte d'un Dieu plein de compassion. Un Dieu qui n'est pas monolithique, un Dieu de jalousie, un Dieu punissant, mais au contraire, un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Ça serait déjà merveilleux si tout se finissait là. D'ailleurs, ça m'arrangerait bien parce que je ne comprends pas toujours ce qui se passe après. Pourquoi l'histoire continue ? Parce que si ça s'arrêtait là, impeccable. Mais voilà. L'histoire continue. L'histoire continue, vous pouvez lire tranquillement plus tard chez vous le chapitre 4. L'histoire continue avec Jonas, on quitte les Ninivites. Jonas va un peu à l'écart de la ville et puis Jonas n'est pas content. Jonas se fâche, nous dit-on. Et puis il dit au Seigneur, s'il te plaît, n'est-ce pas ce que je te disais ? Finalement, il n'est pas content que les Ninivites se soient convertis. Il trouve qu'il a été envoyé au casse-pipe et finalement rien ne se passe. Jonas devrait être super heureux que tous eh bien, soient capables de ce changement, que le monde, va, grâce à ça, risque de devenir meilleur. Mais non, Jonas n'est pas content, il est dépressif à nouveau. Il est là, rien ne lui plaît. il se met à l'écart des autres. Ça, c'est intéressant aussi, parce que peut-être que s'il était resté avec les Ninivites, il aurait compris ce qui se passait. Mais non, il se met en retrait. Il ne veut pas participer, eh bien, à ce deuil collectif. Et puis, la joie collective qui arrivera certainement après, lorsqu'ils s'apercevront que Dieu n'a pas appliqué cette sentence qu'il pensait devoir mériter. Mais en plus, Jonas va recevoir une belle leçon de Dieu. Jonas, il est là, en plein soleil, il a chaud, et Dieu lui fait pousser un ricin qui lui donne de l'ombre. Puis d'un seul coup, Dieu, il supprime le ricin pour lui montrer, pour dire à Jonas qu'il se trompait complètement. Il s'était trompé sur lui, et il se trompait encore sur lui. Certes, il avait la foi, il avait été capable de prier, mais là, il est incapable de ce que Dieu veut, de ce que Dieu fait. Jonas est incapable de compassion. En effet, dans nos existences, nous avons à prier, nous avons à nous reconnaître pécheurs, mais non pas pour nous complaire dans cette image-là de demander pardon à Dieu et que Dieu nous pardonne. Ça, c'est une réalité qui doit habiter notre existence. Mais une fois qu'on a fait l'expérience du pardon de Dieu, c'est à nous aussi de pardonner, d'avoir compassion des autres, si on ne veut pas retomber dans la dépression comme Jonas. Et cela, c'est une vraie, belle leçon de vie que nous pouvons avoir encore aujourd'hui. Avoir compassion. Alors, cela peut se décliner de mille manières qu'elle soit. Dans ces moments un peu compliqués, avoir compassion, c'est certainement penser, prier en premier, accompagner ceux qui le peuvent, même à distance. Et puis, avoir compassion, c'est parfois être capable de ne pas faire. Et oui, en ce moment, c'est plutôt en se retirant, en ne faisant pas, que nous pouvons manifester notre compassion. Et puis, il y aura des temps où on manifestera sa compassion autrement. Mais surtout, ne pas oublier, finalement, ce que Dieu nous demande, c'est pas d'élever des idoles, comme Jonas voudrait, d'élever des autels sur lesquels on fait des sacrifices, comme Jonas a la tentation de le faire. Eh bien, non. Ce qu'il nous demande, c'est de rester en lien avec lui dans la prière, mais surtout de ne pas oublier que ce pardon qu'il nous donne, nous avons, nous aussi, à le donner, que cet amour que nous recevons, nous avons à le partager. Alors, bon, le récit se termine de manière assez abrupte, alors je voudrais quand même sauver Jonas à la fin et dire que là aussi, probablement dans ce dialogue, dans cette leçon que Dieu lui donne, il va comprendre et que nous aussi, nous sommes invités à comprendre que Dieu nous donne son amour et que cet amour doit être partagé. Amen.